Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. Vous avez l'habitude, nous sommes ensemble pendant une heure jusqu'à 20h pour débattre avec mes chroniqueurs de l'actualité sportive de la semaine, le tout accompagné de sportifs de haut niveau. Au programme aujourd'hui, les mythiques coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs. Didier Rubio nous donnera les conseils santé, Lucas Cerdic pour son retour nous donnera l'agenda de la semaine et le débat bien évidemment avec le football cette semaine et le Toulouse Football Club. Enfin, nous recevrons Thierry Corbarieux, coureur et champion de trail de l'extrême. Avec nous ce soir, un chroniqueur qui aurait fait bien pire que Choupo-Moting hier, Mehdi Guillonneau. Bonsoir Mehdi.
Bonsoir.
Un chroniqueur qui a le franc-parler de Thomas Meunier, Maxime Brossard. Bonsoir Maxime.
Bonsoir.
Et un chroniqueur qui va aussi vite que Kylian Mbappé quand on lui dit qu'il y a de la raclette au dîner, Lucas Cerdic. Bonsoir Lucas.
Mais c'est tout à fait juste en plus. Hein. Bonsoir.
C'est vrai que vous, le fromage, c'est...
C'est la vie.
Le dire, voilà.
En fait, c'est très compliqué pour moi de faire un repas sans qu'il y ait de fromage quelque part. Et de préférence à plusieurs endroits, c'est-à-dire entrée, plat, dessert. Voilà, c'est un gros souci.
Même à l'apéro, il faut
c'est un gros souci.
Avec modération, bien évidemment.
Ah, même à l'apéritif, oui, bien sûr.
C'est bien ces petites présentations, là, genre.
C'est sympa, c'est... mais alors, vous nous aviez dit, genre, que c'était pas forcément très fort sur moi, mais en tant que footballeur, comparé à ce qu'a fait Choupo-Moting ce week-end, je peux vous dire que j'en prends un coup quand même.
Moi je suis content, j'ai testé mon accent
le
belge.
Le geste technique de Choupo-Moting est très 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 difficile à réaliser, c'est-à-dire que même si on veut, c'est quand même compliqué
à faire.
Donc voilà, un peu de respect quand même.
Personne ne fait un stop ball sur la ligne quand même.
C'est rare.
Au niveau professionnel,
c'est vraiment très compliqué.
On accueille notre invité qui est déjà avec nous. Merci beaucoup d'être sur Radio Présence ce soir. Bonsoir Thierry Corbarieux.
Bonsoir, c'est un plaisir d'être parmi vous.
On va le dire tout à l'heure, bien évidemment, vous faites un sport qui nous donne tous mal au ventre, c'est coureur de trail de l'extrême, on va en parler un petit peu tout à l'heure, c'est grosso modo des courses de 400 voire 900 kilomètres.
C'est des distances qui sortent l'entendement de temps en temps, oui, mais c'est des distances que je peux faire, c'est des courses, et la dernière elle faisait 900 kilomètres.
C'est tout, ça va. Ça va, c'est
tranquille.
Il n'a pas précisé comment.
Tous les lundis matins au petit déjeuner.
Ouais, fantastique.
Parfait. Avec mon croissant.
On va en parler tout à l'heure. J'ai fait une présentation façon un petit peu Paris Saint-Germain. À noter que Sochaux a battu Paris quand même ce week-end.
Ouais, mais FC, ouais.
Paris FC, mais Sochaux a battu Paris. Il faut quand même le souligner. C'est
génial.
Fantastique.
Youpi.
Tu attends un commentaire de ma part? Parce que je ne vais vraiment pas t'en donner. Là. Je suis incapable.
On peut. Et je vois, pour terminer, après, au premier. En début de l'émission, je vois Maxime Brossard, vous faites un peu la tête. Qu'est-ce qui se passe?
C'est moi qui vous vois heureux comme
pourtant,
jamais. Vous planez.
Pourtant, ce soir après l'émission, il faut tous mettre TF1.
Oh là là,
il y a un inédit. Ce
c'est
soir,
pas possible.
Non mais le Far West.
On
devrait laisser tranquille
non,
le
attendez,
Far West.
Joséphine au Far West quoi. Moi, Sergio Leone va se retourner dans sa tombe là.
Je pense vraiment que là il franchisse une limite.
Non mais
qu'il y aura plus de retour après ça.
Ça vous savez, quand j'ai vu la bande annonce, je me suis dit c'est comme si Cyril Hanouna faisait un film d'auteur ou Depardieu faisait de la pub pour du régime quoi. C'est impossible, c'est improbable le truc. Genre Clint Eastwood il va avoir la nausée. Qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Au Far West.
Quelle fadeur vont avoir les épisodes après ça?
Je ne sais pas
comment on va s'en remettre.
Mimi Mati et Joséphine Angegardien ont déjà été dans le passé, au Moyen-Âge, dans 14-18.
Ouais, c'est voilà. Les visiteurs.
Donc
quoi.
Voilà. Thierry, vous regardez, rassurez-moi quand même.
Moi non, mais mes enfants adorent.
Bon, ça va, vous voyez, je suis pas tout seul.
Eh ben, c'est bien.
Bon, tout le monde est en place, messieurs.
Ils ont 5 et 6 ans, hein, ils ont pas précisé.
Oui,
ils sont un peu plus âgés, c'est ce qui m'inquiète. Hein.
Tout le monde est en place, on peut démarrer maintenant avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule.
Alors on va en parler tout à l'heure dans le débat du Toulouse Football Club, on va parler tout à l'heure des professionnels, mais là aujourd'hui on est obligé de parler des pitchouns, des bébés, enfin des bébés de 19 ans, mais des bébés. Les Toulousains ont éliminé l'ogre montpelliérain de la catégorie, des U19, et ils sont tout simplement en finale de la Coupe Gambardella, la Coupe de France Junior.
Exactement, les U19 du TFC
ont battu.
Exactement, c'est mon coup de cœur. Ça peut pas être autre chose de toute façon parce que j'étais hier au stadium tout simplement. Bah, ils ont joué déjà devant pas mal de supporters. Il y avait 6000 personnes. 5-6000 personnes,
ce qui est énorme pour la catégorie.
Pour un match de U19 déjà avant d'entrer quoi. Et en plus ils ont été l'auteur d'une bonne performance. On a vu un bon match. Bon, ça s'est fini au penalty. On n'a pas vu de but. Mais voilà, se dire que ça y est, Toulouse, au final, les grands n'y vont pas, mais les petits sont capables d'aller au Stade de France au mois de mai. ça sera en ouverture de la finale de la Coupe de France PSG-Rennes. Et voilà, c'est une, vraiment une super nouvelle pour l'ensemble du club. Hein. On en parlera plus tard des grands, c'est un petit peu plus mitigé, mais on a vu franchement de bonnes choses. Des jeunes qui se révèlent, qui ont déjà signé des contrats pro, donc oui. On verra sûrement avec Léa l'année prochaine, et puis même des confirmations, hein, des jeunes qu'on attend depuis longtemps et qui confirment. Je parle aussi de Adil Taoui, Manu Koné, tout ça, c'est des jeunes qu'on voit très souvent et qui parlent peut-être pas à certaines personnes, mais qui sont dans le milieu déjà à ses côtés.
Pour ceux qui ne peuvent pas monter à Paris, comme vient de le dire Mehdi Guillonneau, la finale ce sera le 27 avril prochain au Stade de France. Rassurez-vous, en général, nos confrères de France Télévisions, c'est France 4, France O en général, qui retransmettent le match en direct. Je me tourne vers vous, Lucas Serdic. C'est quand même une belle récompense pour un centre de formation, pour les éducateurs, pour tout, de voir une finale de Coupe Gambara. C'est le Graal pour les centres de formation, hein.
Oui, oui, tout à fait. Il va juste falloir espérer que justement ça attire pas un peu les convoitises de certains gros clubs qui pourraient être attirés par le fait de piquer quelques pépites au TFC. On a vu avec l'exemple de Jean-Claire Todibo qu'il valait mieux assurer.
Il était là d'ailleurs hier.
Il était c'est bien, tant mieux.
Parce que c'est sa génération, c'est
bien sûr, bien sûr. Mais voilà, on voit avec un profil comme celui-là qu'il vaut mieux assurer ses arrières et puis faire signer des contrats pro assez tôt à ces jeunes-là. J'espère que le TFC aura retenu la leçon de Todibo et puis qu'ils pourront briller avec Léa du TEF, ces jeunes.
Comme vous l'avez dit, Lucas, le TFC, c'est de préparer à ça parce que l'ensemble, beaucoup de joueurs ont déjà signé des contrats professionnels de 3 ans. Il y a même des remplaçants, c'est une chose assez étonnante. C'est-à-dire qu'en 19 ans, il y a deux remplaçants qui sont rentrés qui ont déjà des contrats pro, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc oui, je pense que le club... c'était préparé à ça, peut-être en venant voir cette génération-là qui est pleine de grosses individualités et l'avenir leur appartient.
Oui, tant mieux. Maintenant, reste à gagner cette finale. C'est tout, c'est le 27 avril, si je ne dis pas de bêtises,
et,
contre Saint-Etienne.
Voilà, je ne sais pas si on l'a dit, c'est contre l'AS Saint-Etienne. Le TFC, pour finir là-dessus, qui a gagné la Coupe Gambardella une seule fois, c'était en 2005. Là, ça va être contre Saint-Etienne. C'était contre le voisin, à l'époque, c'était contre l'Olympique Lyonnais. Une large victoire 6-2. Et à noter, pour l'anecdote, les deux buteurs de l'Olympique Lyonnais, c'était juste Karim Benzema et Atem Ben Arfa. Mais ce sont bien les Pitchouns qui avaient gagné 6-2 face à l'Olympique Lyonnais. On va changer de ballon, on va même réduire le nombre de joueurs, ce qui est quand même assez rare pour parler de rugby. Je me tourne vers vous, Maxime Brossard, et l'énorme performance de l'équipe de France à 7, qui a perdu en finale d'un tournoi. Oui. Mais la performance est là et c'est fantastique.
Ouais, ça fait tout drôle de parler d'une équipe de France de rugby qui gagne. Mais bon, voilà.
Pas face à n'importe qui en plus.
Donc c'était la deuxième finale consécutive après le tournoi de Vancouver. C'était le tournoi de Hong Kong, qui est un tournoi mythique dans le tournoi à 7.
C'est le meilleur.
C'est le plus prestigieux, le plus ancien. Et au tournoi de Vancouver, l'équipe de France à 7 avait déjà s'est inclinée en finale face à l'Afrique du Sud. Et là, ils ont fait un parcours magnifique. Donc, ils ont fait un sans faute en poule, où ils ont perdu aucun match. En plus, il y avait le Canada et l'Argentine, qui sont quand même des équipes assez relevées. Donc, trois victoires en 3 matchs. Puis après, en quart de finale, ils sont tombés sur les Néo-Zélandais. C'est là où ils ont fait l'exploit. En fait, ils ont battu la Nouvelle-Zélande en quart pour accéder en demi et battre les Samoa. Et enfin, ils ont joué la finale hier. Malheureusement, ils ont perdu contre les Fidji 21-7. Mais avec les honneurs, du coup, parce qu'ils ont quand même mis en difficulté cette équipe des Fidji qui est un peu. C'est les meilleurs du monde. Ouais, c'est les champions olympiques. Donc, en fait, il n'y a pas meilleur. Voilà. Et donc, en fait, oui, les Bleus, pour continuer, quand confirmer avec cette deuxième finale. C'est une équipe qui est entraînée par le Dakois Jérôme Daré. Il y avait beaucoup d'interrogations autour de cette équipe, en fait, puisque ça fait déjà plusieurs années que les résultats sont en dents de scie. Et là, il y avait eu vraiment un creux au niveau des résultats depuis un an à peu près. Et là, il y a une nouvelle génération qui se met en place. On a réussi à remplacer un peu les stars qui étaient les Vakatawa, les Burawa, tout
et
ça.
Et qui sont passés à 15.
Voilà, qui sont passés à 15. Même si Teddy Burawa, qui est un peu la star de l'équipe, est revenu un petit peu à 7. Mais bon, il joue moins qu'avant, on va dire. Puisqu'il y a des nouveaux cadres qui sont en train d'émerger. Je pense à Stéphane Parez. Je pense à Barak aussi, qui est un joueur qui est passé par le Stade Rochelet, notamment. Et il y a l'éclosion surtout d'un phénomène, on a vu pendant ce tournoi, qui est Gabin Villière, donc Gabin Villière, qui est un ailier qui jouait en Fédéral 1 à Rouen et qui a fait un tournoi vraiment incroyable. Il a mis sur le cul les Néo-Zélandais, il a fait décrocher dévastateur aux Fidjiens. Enfin, c'est un joueur incroyable. Et des belles promesses aussi avec deux jeunes que je voulais citer, qui sont Julien Blanc, qui joue à Pau. Voilà, un petit clin d'œil.
On en parlera tout à l'heure.
Ouais. Et Aurélien Calandré d'Oyonnax. Voilà.
Donc la génération pour le rugby à 7, elle arrive, elle est
prometteuse.
Là, et on va espérer de ouais. très bonnes performances pour l'équipe de France de rugby.
Dès ce week-end, ils vont à Singapour et il y a la poule déjà, ils affrontent l'Argentine et l'Australie. Et il faut attendre le troisième adversaire, on ne le sait pas encore, on le saura ce week-end.
On reviendra vers vous tout à l'heure pour un deuxième coup de cœur exceptionnellement ce soir. Je me tourne vers Lucas Serdic. On va rester un petit peu dans le football, c'est une émission un petit peu football ce soir. On ne va pas parler de Ligue 1, on ne va pas parler de Ligue 2, mais on va parler de National 1. C'est l'équivalent de la 3e division en France. La Ligue 1, la Ligue 2, c'est professionnel. La Nationale 1, c'est semi-professionnel. Par contre, il y a une équipe du coin qui risque de devenir professionnelle sur le terrain, au moins.
Oui, on a hâte de voir ça, parce que là, c'est quasiment assuré. C'est le Rodez AF, pardon, le RAF, comme on l'appelle là-bas, qui est sur le point donc, de monter. Ça aurait pu être officialisé ce week-end si Laval n'avait pas eu la mauvaise idée de gagner face au Mans 3-1 samedi. Alors, tous les joueurs, apparemment, étaient devant leur écran, mais pas le coach, hein, Laurent Perlade, qui a dit « Moi, je me concentre sur mon équipe, on a notre destin en main. » Et effectivement, ils l'ont en main ce jeudi soir. Ils vont jouer à 20h30 à domicile face à Boulogne-sur-Mer, qui est 8e du championnat, donc c'est un match largement à leur portée. Quand on voit à domicile ce qu'ils sont capables de réaliser, le RAF, ils font une saison en tout point extraordinaire, de régularité, de sérieux, de on peut employer le mot maintenant, de professionnalisme, puisque l'année prochaine, effectivement, ils le seront à part entière. Ils le seront, j'ai pas envie de leur porter la mouise, mais bon, avec l'avance qu'ils ont
à 5 journées de la fin, qui est 14 points d'avance
oui, sur le 3e, et encore en plus, le 3e, c'est une place de barragiste, donc ils pourraient même se qualifier, se monter en étant troisième. Mais bon, ils ne seront pas troisième dans tout état de cause. Il leur suffit d'une victoire sur les 5 dernières journées et il y a de bonnes chances qu'elle se fasse jeudi soir, effectivement, à 20h30 en match avancé face à Boulogne-sur-Mer. Ça fera un quatrième club professionnel dans la région, sachant que Béziers. Dans l'ancienne région, il y a Béziers, il me semble, Nîmes aussi. Cinquième. Mais bon, dans l'ancienne région Midi-Pyrénées, ça ferait qu'un deuxième club professionnel. Puisque les trois autres clubs viennent du Languedoc-Roussillon. Ça nous fait plaisir. C'est un club qu'on suit depuis longtemps. Le RAF, RAF et le football, c'est une belle histoire en commun. Et c'est un beau club qui structure bien et qui anticipe sur la saison prochaine. Ils savent qu'ils vont avoir un problème avec le stade. Il y a des travaux qui sont lancés. On va en parler. Ça se trouve, une rumeur circule et a priori elle est assez sérieuse. Une partie des matchs à domicile en début de saison se feront à Bastia. On verra.
L'utilité quand même.
Dans tous les cas. On verra. Il y a d'autres clubs qui sont, enfin d'autres villes qui sont sur le coup. Dans tous les cas, vive le RAF et vive leur future montée en Ligue 2.
Un deuxième club, on a tous en tête malheureusement l'Uznac, bien évidemment, qui était monté en 2014 et qui a vu sa montée refusée pour diverses raisons. Ça ferait du bien quand même à la région de voir un deuxième club dans le paysage footballistique professionnel en France. Il n'y a que Toulouse dans l'ex-région Midi-Pyrénées.
Ils ne sont pas pro les filles du RAF qui sont en D1, je crois.
Oui, elles sont
semi-pro. Et en plus, c'est son dernier, elle risque de descendre.
Elle est pauvre.
Donc c'est super pour la région.
C'est vraiment une super nouvelle parce qu'on s'y attendait il y a 3-4 ans avec l'Uznac. Et voilà, on est un petit peu déçus sur le stade. On aurait espéré que les 5-6 premiers matchs de l'année, parce que leur stade n'est pas aux normes, donc il faut attendre octobre et les travaux pour qu'ils y jouent. Et ils pensaient venir sûrement à Toulouse. C'est pas possible parce que c'est trop cher et il n'y a pas de cadeau de la part de Toulouse. C'est peut-être un peu décevant.
C'est quand même
et ils vont aller jouer sûrement à Bastia et sinon il y a d'autres stades, c'est Guignon.
Voilà. Il me semble qu'il y a un autre candidat aussi dans la région. Je me souviens plus, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais voilà, ça pourrait être moins loin que tout ça.
C'est quand même une bêtise sans nom de la part de la ville de Toulouse, de la métropole, des personnes qui dirigent ça. C'est quand même c'est juste insupportable. En 2014, l'Uznac aurait pu jouer à Ernest Vallon. Or, aujourd'hui, maintenant, avec les nouvelles normes de la LFP, de la Ligue de football professionnel, Ernest Vallon n'est tout simplement plus homologué pour le football professionnel. C'est uniquement, bien évidemment, pour le rugby professionnel. Donc, le problème est là. Mais de la part de la mairie, de la ville, de la métropole, je vais pas dire de bêtises, ouais, de la région, je ne sais pas, honnêtement, qui décide de
peut-être
ça.
Peut-être le TEF aussi,
mais
un petit peu.
Mais c'est insupportable et c'est nul. C'est tout simplement nul. Je me retourne vers vous, Maxime Brossard. Oui. Si les décisions sont nulles pour le football, il y a un joueur français qui joue en NHL. NHL. Ouais. Lui, il n'est pas nul, par contre.
Ah non, c'est Alexandre Texier. Il a seulement 19 ans. C'est la nouvelle star du hockey français. C'était son deuxième match en NHL cette semaine. Il a déjà marqué un but sous les couleurs des Columbus Blue Jackets. Donc, c'est une équipe qui est dans l'Ohio. Donc, comme j'ai dit, voilà, il a seulement 19 ans. Il est arrivé que début mars, en fait. Il vient de Grenoble. Il a commencé donc en AHL, qu'on appelle. C'est la deuxième division de la NHL. Donc. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il était très fort. Il a impressionné tout le monde, à commencer même par le propriétaire de l'équipe des Blue Jackets. Donc, ils n'ont pas hésité à le lancer dans le grand bain. Il a d'abord fait son début, excusez-moi du peu, dans le Madison Square Garden de New York. Ouais. Et puis là, il a marqué un but contre Ottawa. Et donc il devient ainsi le septième joueur français.
Voilà, il n'y a pas beaucoup de Français qui jouent là-bas.
C'est officiellement le septième joueur français évolué en NHL. Et en plus de ça, il va disputer les playoffs, puisqu'il a, du coup, il a été qualifié par son entraîneur pour disputer les playoffs. Les playoffs qui commencent ce jeudi contre Tampa Bay, qui est la meilleure équipe de la ligue.
Et on suivra bien évidemment. Je compte sur vous suivre les performances de ce Français qui fait des exploits sur le hockey sur glace. Nous, on se retrouve dans moins de 4 minutes avec les conseils santé de Didier Rubio. À tout de suite.
Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Aussi de moi, dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Mon ami, mon ami, Tiago. Mon ami, mon ami, mon ami, Tiago. Mon ami, mon ami, mon ami, Tiago. Tiago. La copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, Tiago, Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon
c'était Kenji Girac sur Radio Présence.
Sportez-vous bien, l'instant santé.
La chronique santé de retour, comme d'habitude, tous les lundis sur Radio Présence. Cette semaine, Didier Rubio, nous allons parler des fruits oléagineux. La même question, qu'est-ce que c'est ?
Bonsoir Jean. Alors oui, les fruits oléagineux, ce sont donc des fruits avec une composante nutritionnelle qui va être riche en lipides, donc en graisse. Donc c'est très très intéressant parce qu'on pourrait penser que...
Ça... La graisse c'est pas bon normalement.
Et voilà, c'est ça, on pourrait penser que c'est très calorique et qu'évidemment il faut peut-être pas en manger.
Et on, nous dit que les fruits c'est bon pour la santé, il faut pas prendre de graisse. Mais si on nous dit maintenant que les fruits ont de la graisse...
Voilà, mais c'est une très bonne analyse parce qu'effectivement...
Comment on fait ?
Donc ces fruits qui sont dits oléagineux, ce sont des fruits souvent qui ont des coques, on va, donc les noix, les noisettes, il y a les noix de pécan, de macadamia, les noix de cajou, pistaches, amandes. Donc la composante principale, pardon, je disais, ce sont les graisses, les lipides, mais très souvent, ce sont des bonnes graisses. Donc des graisses qui sont en oméga 3, ce qui est difficile à trouver dans l'alimentation. Et pour faire la relation avec les sportifs, on en a souvent parlé, par exemple sur le système inflammatoire, la circulation sanguine, les oméga-3 sont des éléments qui sont très importants.
Est-ce que pour la cuisson justement de viande pour des sportifs de haut niveau, il faut privilégier ces huiles, les huiles de noix, les huiles de fruits à coque, comme on vient de le dire ?
Oui, alors c'est très bien vu, ouais, tout à fait.
C'est mieux que le beurre à la cuisson ?
Là, on va, pour les huiles et la cuisson, on va utiliser des huiles qui viennent des graines oléagineuses. On va en parler un petit
d'accord.
peu plus tard, comme le tournesol.
D'accord.
Mais c'est vrai que par exemple, les fruits à coque comme les noix et noisettes... Enfin, noix en tout cas, c'est pas conseillé de faire cuire cette huile. Non, c'est plutôt quelque chose qu'on va mettre dans
manger,
les salades.
D'accord.
Pour aller plus loin encore dans la nutrition de ces fruits oléagineux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont très riches en fibres. Et ça, c'est aussi très important. Les fibres, c'est quelque chose dont on a besoin au quotidien. Mmh. Et ne serait-ce qu'une portion, par exemple, c'est une portion, ça tient à la main. C'est 25-30 grammes, une petite poignée. D'accord. Il y a déjà entre 2 et 3 grammes de fibres. Sachant qu'on a besoin à peu près de 30 grammes, ça ferait presque déjà 10% avec une petite poignée de noix ou de noisettes. Donc c'est vraiment, vraiment très intéressant. La vitamine E, c'est une vitamine antioxydante. Elle est très, très présente dans ces composés, dans ces fruits oléagineux. Et également une mine de minéraux comme le calcium, le potassium, le magnésium surtout. C'est très, très important pour le sportif. Le bémol serait... on trouve aussi les fruits oléagineux pour l'apéro. Et il ne faut pas confondre parce que, par exemple, les arachides, ce ne sont pas des fruits oléagineux, c'est différent. En fait, ce sont des légumineuses. Et souvent, lorsque ces produits-là sont très salés, déjà décortiqués, moi, je déconseille un peu. Donc, si on va plus loin, je conseille, si possible, de les acheter encore avec la coque et, si possible, bio parce que sinon, ils seront quand même traités.
Est-ce qu'on peut les manger d'une façon illimitée ou il faut quand même se restreindre ?
Et très bonne question parce que comme on disait en préambule, et si bien vous l'avez dit, c'est riche en graisse donc on ne peut pas non plus en consommer des quantités astronomiques parce que forcément ça va faire grossir. Donc au petit-déj par exemple, petite poignée et au goûter par exemple aussi c'est très bien. Pour les enfants moi je conseille aussi parce que c'est très très riche. Vraiment intéressant nutritionnellement. Il faut aussi faire attention aux allergies, hein, parce qu'il y a quand même des gens, s'ils sont allergiques aux fruits à coque, bon, ben voilà, par définition, ils ne vont pas en consommer. Donc, c'est juste le bémol qu'on peut mettre, mais s'il n'y a pas de problème d'allergie, c'est quelque chose qu'il faut avoir présent dans une corbeille à la maison, sur la table, parce que c'est une mine d'or, vraiment pour les sportifs.
À quoi ça sert pour un sportif, justement, de manger des fruits à croque ? Ça fortifie ?
Ouais, carrément, ça fortifie, ça participe vraiment à lutter contre l'oxydation, contre...
Ça aide pour la récupération, justement ?
Ah ouais, pour la récupération, il y a des glucides, c'est une très bonne, très bonne intervention. Et puis, dès l'instant où il n'y a pas d'eau dedans, en fait, c'est sec, c'est facile à emporter, c'est petit en volume... Et donc, ça peut se loger dans un sac. Moi, j'en connais plein de sportifs, ils se font des petits sachets. Et vraiment, non, c'est très, très intéressant en termes de récupération.
Didier Rubio, merci.
Merci.
On le rappelle, vous êtes diététicien et nutritionniste du sport, spécialisé en éducation thérapeutique. Vous travaillez également à mi-temps, hôpital des enfants et aussi en activité libérale dans le sport et la santé. Vous avez été formé en qualité de vie au travail et dans le sport. En plus, vous êtes conférencier et micronutritionniste. Vos coordonnées sont à retrouver sur Radio Présence.
Sportez-vous bien ? L'agenda sportif.
l'agenda de la semaine avec vous pour votre retour, Lucas Cerdic, et on a une actualité bien chargée. Et comme d'habitude, on va démarrer avec le rugby.
Le top 14 et la 22e journée qui va se jouer ce week-end avec trois matchs qui vont être très intéressants à suivre. Et ça va commencer le samedi à 14h45 par le déplacement de Castres à Bordeaux-Bègles. C'est le 6e contre le 5e. Castres qui marche fort en ce moment, qui s'est imposé face à La Rochelle 25-11 et qui est dans le top 6, même à la portée du podium. Hein. Et Bordeaux-Bègles qui est 6e. Donc ça va être un vrai choc déterminant pour les phases finales. Ce sera samedi à 14h45, un peu plus tard à 18h, Pau se déplacera à La Rochelle. Que dire de Pau ? Pau ne va pas bien.
Coraline, notre réalisatrice.
Pau est vraiment dans des difficultés persistantes. Défaite à domicile ce week-end. 24-27 face à Lyon en plus.
Très très mauvais en touche.
Mais vous avez excusez-moi de vous couper, mais vous n'avez
Où est l'honneur,
au hameau ce week-end ?
J'ai perdu ma voix au hameau, effectivement.
Perdu la voix et le temps, j'ai envie de dire.
Et le match.
Sincèrement, pour voir ça. Donc voilà, Pau est 11e, La Rochelle est 8e. Ça va être difficile pour les Palois parce que La Rochelle doit se qualifier et doit l'emporter. Dimanche à 16h50, il y aura après
le choc, la petite
cerise sur le gâteau. Toulouse-Clermont, le premier contre le deuxième à 16h50 en direct sur Canal+, mais surtout depuis le stade Ernest Vallon qu'on espère plein. Ce sera au stadium.
C'est au stadium.
Et vous voyez comme je dis des bêtises. Heureusement qu'on m'écoute dans cette radio. On rappelle que Toulouse a vu sa série incroyable de 14 matchs sans défaite en top 14 s'arrêter ce week-end face à Toulon, 25-10 sur, c'était au Vélodrome, encore un stade de football décidément. Toulouse a d'autres objectifs maintenant que de simplement poursuivre une série de matchs sans défaite. En Pro D2, on va jouer la 28e journée. Là aussi, il y a des matchs à gros enjeux, et notamment le déplacement de Colomiers à Biarritz. Ça va être un match difficile, mais les Columérins sont sortis de la zone rouge enfin. Ils vont jouer vendredi à 20h, il va falloir continuer sur cette dynamique. Ils ont gagné face à Massy 31-7 le week-end dernier. Dans le même temps, Bourg-en-Bresse, qui est un peu l'équipe qu'il va falloir surveiller, accueille Montauban, donc ce serait bien que nos voisins montalbanais aident un petit peu les Columérins. Ce sera aussi vendredi à 20h. Montauban qui a perdu face à Vannes à domicile ce week-end, ça va pas bien pour Montauban. Non, c'est pas une blague du tout, ça les fait pas rire du tout, je peux vous le dire.
Non, je pense pas.
Le SM, c'est vraiment pas. Et enfin, vendredi à 20h, il y aura aussi le déplacement de Carcassonne à Brive, le deuxième. Ouais. Donc ça va être difficile un petit peu pour les Audois. Il faut parler de la Fédérale 1 parce que Blagnac a encore brillé ce week-end. 37-3 face à Saint-Sulpice. C'était pas un match pourtant sur le papier aussi facile que ça.
C'était un derby. Ouais.
Voilà, bon, ils seront deuxième, comme on l'a dit. C'était l'avant-dernière journée de cette poule 3. Il n'y aura pas de.
Déjà annoncé le quart de finale le 28 avril contre Bourgoin-Jallieu.
Bourgoin-Jallieu, attention, qui a plus de 80 points dans sa poule 4. Ouais. Ça va être un gros, gros morceau. Mais de toute façon, les quatre premiers des quatre poules sont des gros morceaux, hein, que ce soit Rouen, Albi ou Valence.
Un mot de football ?
Oui, bien sûr, le ballon rond. La Ligue 1, 32e journée ce week-end, le derby d'Occitanie qu'on appelle maintenant, hein, Montpellier contre le TFC. Ça va pas être facile pour les Toulousains d'aller s'imposer là-bas. Ce sera dimanche à 15h, même si le TFC a fait un bon match, en tout cas c'est ce que j'ai trouvé. On en parlera tout à l'heure face à Nantes ce week-end, victoire 1-0. Enlevé de rideau, parce que c'était levé de rideau vraiment de la gambardée. Où les Toulousains se sont qualifiés pour la finale. Au tir au but, 5 tirs au but à 4 après un match nul 0-0. On écoute d'ailleurs tout de suite le capitaine des Pitchouns, Moussa Diarra.
C'est un travail d'équipe aujourd'hui, vraiment. On a puisé dans nos ressources grâce aux supporters, au soutien de tout le monde. On savait qu'il y avait de l'engouement. On ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et on est vraiment contents et on va fêter ça comme il se doit avec les pros aussi. Hein. Ils nous ont soutenus et ça fait plaisir. Tout Toulouse était derrière nous aujourd'hui. C'était un rêve de jouer au stadium. On a réussi à jouer ici grâce à nos performances, on est allé jusqu'en demi-finale. Je pense que c'est pas l'aboutissement, mais c'était notre petite finale. Et maintenant, on allait arriver sur la grande finale au Stade de France. Moi, je viens de Paris, j'ai déjà vu des matchs de l'équipe de France. Mais en tant que joueur sur le terrain, c'est vrai que ce serait une première. Et je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Ça sera comme si on sera à domicile, je pense. Là, on va dire qu'on a une mission. Maintenant qu'on est allé en finale, on ne peut plus faire marche arrière. On doit battre Saint-Etienne. On a déjà les yeux rivés sur eux. Et c'est un bout de rêve qui s'accomplit, on va dire.
Il l'a dit, Moussa Diarra, ce sera le 27 avril au Stade de France face à Saint-Etienne, la finale de la Coupe Gambardella. Un tout petit mot aussi de national, on l'a déjà dit, mais on le redit. Rodez, le gros rendez-vous, ce sera jeudi soir face à Boulogne-sur-Mer, jeudi à 20h30. Voilà, pour la montée peut-être, sans doute.
Un mot de rugby à
13. Enfin, le Théo 13 qui s'est imposé face à Featherstone ce week-end 8-2. Il ne joue pas ce week-end. C'était une victoire très importante pour le rugby à 13. Le Théo 13, pardon.
Et enfin, le handball. Et le volley.
Le handball et le volley. En championnat, il n'y aura pas de match ce week-end. Le résultat concerne la 20e journée. Une lourde défaite pour Toulouse sur le parquet de Montpellier. On pouvait s'en douter. 36-27. Voilà pour les Phoenix. Et en volley, on joue la dernière journée ce week-end. Toulouse accueille Narbonne. Toulouse qui est 11e. Hein, les Spacers qui ont perdu sur le parquet de Nantes la semaine dernière. Donc la dernière journée pour Toulouse face à Narbonne, ce sera samedi à 20h. Et sinon, je suis obligé de parler un peu de basket parce que
Le
TMB qui joue le dernier match de sa saison. Ils sont deuxièmes à une victoire des premières. Elles accueillent sur leur parquet le quatrième, Montbrison. Ce sera samedi à 20h. Dans le même temps, Charnay, le leader, joue à Reims qui est cinquième. Donc il y a peut-être possibilité d'aller gratter la première place. C'est la dernière journée avant les playoffs.
Et comme ça, on est complet. Merci Lucas Cerdic. Nous, on passe, messieurs, au débat de la semaine.
Sportez-vous bien. Le débat.
Victorieux 1-0 du FC Nantes hier, le TFC s'est plus que jamais approché du maintien en Ligue 1. Pour l'heure, une saison moyenne, plate et sans frisson, une saison malheureusement habituelle pour les amoureux du club. Messieurs, vous commencez à avoir l'habitude, on ne répond uniquement que par oui ou par non. Le TFC peut-il mieux faire ? Alors je ne parle pas de la fin de saison, je parle de la saison globale. Lucas Cerdic.
Le TFC peut mieux faire, effectivement. Le top 10 est presque atteignable, mais franchement, je.
Non.
Voilà, j'ai envie de dire mince.
Oui. Voilà. Maxime Brossard.
Oh bah oui, on peut forcément mieux faire. Là.
Et vous, Mehdi Guillaume?
Oui, aussi, évidemment.
Pardon, j'ai développé. Hein.
C'est pour ça que je me tourne vers Mehdi Guillaume, alors, comme ça. Alors, vous êtes aussi un amoureux hein, du TFC.
Dieu sait que c'est dur.
Et oui, bien évidemment, c'est très compliqué, malheureusement, en ce moment, pour les supporters du TFC. Ça dure depuis bien longtemps. La dernière fois que le TFC, tout simplement, était dans le top 10, c'était en 2014. Ce qui remonte à une éternité pour un club comme le TFC. Qu'est-ce qui manque justement pour retrouver ne serait-ce qu'un top 10? C'est presque trop demandé, on a l'impression.
C'est presque trop demandé. Pourtant, en général, au foot, on parle souvent d'argent. Et ben, le TFC, ils en mettent. Parce que juste pour placer quelque chose en début d'année, donc c'est le 7e club le plus dépensier de France avec plus de 18 millions d'euros dépensés. Ouais. Et on est 14e au classement. Donc le différentiel est quand même
énorme.
Assez opportun.
Dépensé, mais pas investi, attention.
Investi sur le marché des transferts.
Non, mais dépensé de l'argent qu'ils avaient récupéré aussi des ventes.
D'autres
ils n'ont pas sorti 18 millions d'euros voilà, de leur truc.
Ah non, à Toulouse, ce n'est pas possible. C'est la plupart des clubs de Ligue 1, ce n'est pas possible.
C'est pour ça, la 7e place des dépenses, pour moi, ça ne traduit en rien une quelconque ambition. Quoi.
C'est ben, pas, en c'est général, pas quand tu mets 18 millions d'euros, c'est que tu as quand même quelques ambitions. Et même le début de saison nous laisser paraître peut-être quelques améliorations. Il y a un bon début de saison jusqu'au match de Saint-Etienne. Il me semble que c'était mi-septembre. Et ensuite, c'est une dégringolade. C'est une saison complètement fade. Et en fait, c'est même les 5 dernières années qui sont complètement fades. Et qu'est-ce qui manque au TFC ? Ben, moi, j'ai envie de dire une âme. Une âme, tout simplement. Moi, je rejette souvent la faute, souvent aux dirigeants, plus qu'à l'entraîneur et aux joueurs, qui, pour moi, n'installent pas un climat assez positif. Un climat pour la gagne, tout simplement.
Maxime Brossard.
Ouais, je suis d'accord avec Mehdi. Bon, je suis pas le foot et les performances du TFC autant qu'il peut le faire, mais je pense que c'est vrai que pour être.
C'est triste.
Quoi. En tant que Toulousain, c'est vrai que j'ai l'impression que si le TFC perd, ça embête pas plus les gens que ça, quoi. À part vraiment ceux qui sont vraiment amateurs de foot, mais il y en a pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a pas autant d'engouement qu'il peut y avoir, par exemple, pour le Stade. Bon, ça vient peut-être aussi du palmarès, mais même il y a d'autres équipes où j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu plus d'engouement et c'est ça. Peut-être il manque une âme ou vraiment. Que une grosse performance et qui rassemble un peu tout le monde derrière ce club. Quoi.
Lucas Cerdic, pour fédérer, est-ce qu'il ne faut pas on le dit souvent, on l'a dit quelques fois ici dans Sportez-vous bien, est-ce qu'il ne faut pas un parcours en coupe, tout simplement, Coupe de la Ligue, Coupe de France, une demi-finale, une finale, un Stade de France comme les U19 l'ont fait hier, pour pouvoir fédérer, pour pouvoir faire venir du monde au stade, tout simplement.
Bien sûr, mais c'est l'éternel problème du cercle vicieux qu'on a déjà évoqué ici maintes fois. Pour faire un beau parcours en France, il faut un petit peu ce supplément d'âme, il faut cette volonté, il faut ce public. Et le public, on l'a pas tant qu'on n'a pas fait de performance, tant qu'on n'a pas bâti une certaine histoire. Le problème du TFC, il est là. Et tant qu'il n'y aura pas quelque chose en plus, on n'y arrivera pas. Est-ce que ce sera un coach? Avec Pascal Duprat, on aurait pu penser que ça allait marcher, ça l'a pas fait. Évidemment qu'il va falloir tenter des choses. Ça peut passer par le choix d'un coach, mais on le pense tous ici, ça passe avant tout par un changement de direction. Voilà.
Mehdi Guillaume, vous êtes d'accord, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, c'est vraiment c'est là-haut, c'est en haut de l'organigramme c'est l'organigramme, le sommet qui fait défaut là au TFC. Et c'est de ce que vous dites.
Exactement, mais c'est d'autant plus dur à dire parce que c'est Monsieur Sadran donc qui est le patron du club, le propriétaire du club, en plus d'être président, parce que c'est lui qui l'avait récupéré quand il était en national, il l'a fait remonter. L'époque des pitchouns, les premiers pitchouns, c'est lui. Et voilà, c'est peut-être compliqué, il a peut-être perdu la foi, tout simplement. Moi, je le vois un petit peu comme ça, mais il a du mal, tout simplement, aussi à passer la main, quoi, parce que... se faire enlever son bébé, c'est compliqué, mais vraiment, on sent qu'il n'y a pas du tout d'âme de gagnant. Tous les ans, ils nous annoncent on va faire un parcours en coupe. La coupe, on la joue sérieusement. Ouais. Et cette année, quand il faut aller jouer c'est un quart ou un huitième à Nantes, y a pratiquement l'équipe 2 qui est alignée. Est-ce que c'est comme ça qu'on joue une coupe? Pour moi, non, tout simplement.
Maxime Brossard, vous suivez beaucoup plus le rugby que le football, justement. C'est un petit peu gros, mais est-ce que le problème du TFC aussi, par rapport à l'amour et l'apport qu'a les supporters pour un club, c'est pas le fait d'avoir tout simplement un club historique, l'un des plus grands clubs d'Europe de rugby, dans la même ville, quoi.
Et tout à fait, je pense que c'est culturel. En fait, le fait est que déjà le Sud-Ouest, ça a toujours été une terre de rugby. Et puis après, je prends aussi l'exemple du Paris Saint-Germain, finalement, qui a toujours le stade plein avec énormément de ferveur et tout ça. Mais si vous regardez le stade français, même s'ils ont un gros palmarès, il n'y a jamais personne dans les tribunes, quoi. Donc en fait, je trouve que c'est dur d'avoir l'équilibre finalement de trouver une ville où vraiment tous les stades sont pleins en fait. Le problème, c'est vrai qu'il y a une grande richesse, une grande diversité de sports à Toulouse, et peut-être que ça dessert aussi un peu le TFC. Mais après, oui, je suis d'accord sur le fait que c'est les dirigeants. J'ai l'impression qu'ils mettent pas de flamme, pas de. Et puis après, il y avait eu un petit peu de ferveur. Moi, je me rappelle à l'époque où ils avaient fait quand même le petit parcours en Ligue des Champions, là où ils avaient été éliminés par Liverpool.
Ça remonte 2007,
ouais.
Enfin, ils terminent en troisième en 2007 et la saison avec 2007-2008.
Ça avait été une torque contre Bordeaux, je crois.
Là,
on sentait vraiment de la ferveur autour de cette équipe, et je trouve que
parce qu'ils étaient troisième, parce qu'ils allaient jouer la Ligue.
Ouais, justement, c'est comme vous disiez, il y avait peut-être une performance derrière aussi qui aurait pu aider à consolider ce lien.
Il y avait un peu de caractère, il y avait ce grain de folie qui manque aujourd'hui cruellement. C'est pas facile aujourd'hui d'être un joueur qui montre une grosse ambition, ou en tout cas un petit supplément d'âme en étant au TEF, parce que assez vite on s'endort dans ce club. Si jamais il n'y a pas un gros début de saison, un gros truc qui fait qu'il y a de l'engouement, quand tu arrives dans un stade où il y a la moitié des sièges qui sont tout le temps vides, c'est compliqué, et en plus de ça tu te fais pas bouger par tes dirigeants, donc t'as pas envie d'en donner plus.
Et
tranquille.
Et on a l'impression de l'extérieur qu'il n'y a aucun projet, c'est-à-dire comment motiver des joueurs
je pense que
le projet il est clair.
On le voit avec les jeunes.
Former des jeunes, les vendre et puis voilà.
Et se maintenir.
Un bon gestionnaire.
Mais, justement, par rapport, pour revenir au recrutement, même aux jeunes en fait, est-ce que finalement au TFC il ne manque pas un joueur, un joueur qui est marketé toulousain, quoi, vraiment identité? Le Toulousain, vous voyez ce que je veux dire, quoi, qui incarne cette ville, qui incarne cette équipe, qui est fier de son club, un joueur supporter, vous voyez ce que je veux dire un peu. Et je trouve qu'il n'y en a pas à Toulouse en fait, quoi. Enfin, il n'y en a peut-être plus, mais je veux dire, je pense que ça ferait du bien aussi à l'équipe, peut-être d'avoir même un capitaine, un vrai Toulousain, quelqu'un qui se bat pour sa ville, quoi, qui se bat pour ses couleurs.
Pour terminer, Mehdi Guillaume, le problème, enfin, c'est pas un problème justement, pardon, vous l'avez dit, l'effectif est pourtant suffisant, enfin, sur le papier on parle.
Sur le papier, des effectifs un peu équivalents au nôtre en termes de qualité, c'est Montpellier, il joue l'Europe, tout simplement. Il y a même des clubs comme Reims qui sont en position de jouer l'Europe, il y a Strasbourg qui a gagné la Coupe de la Ligue, Strasbourg, c'est par rapport à nous, il y a une histoire derrière.
Il y a une ferveur là-bas par contre, dit Maxime.
Quand on prend l'effectif de Strasbourg et le nôtre, c'est eux pourtant qui ont gagné la Coupe de la Ligue, et franchement, c'est... Très décevant.
On suivra les performances, bien évidemment, du TFC et l'été qui pourrait être agité. Pourquoi pas, on espère, hein, pour les supporters.
Il va y avoir du mouvement.
Du moins pour les supporters du TFC. Prochain rendez-vous, c'est ce week-end. Et justement, c'est à Montpellier. Nous, on se retrouve dans un peu moins de 4 minutes avec notre invité. À tout de suite. C'était 400 Trees sur Radio Présence.
Sportez-vous bien. L'invité.
Quel accent.
Quel anglais, Jean. Well done, sir. Sir Sureda.
Je veux pas me lancer des fleurs, mais j'ai vraiment l'impression que de semaine en semaine, c'est mieux.
En même temps, vous êtes bilingue.
En même temps, on met 400 Trees toutes les semaines.
Mais oui, c'est pour ça.
Jean Sureda, on l'appelle comme ça, à Colomiers, je crois.
Messieurs, notre invité est tout simplement un alien, vainqueur de l'Ultra Trail, l'une des courses les plus difficiles au monde. Thierry Corbarieux a réussi des performances hors du commun, il n'est pas prêt de s'arrêter. Thierry, rebonsoir.
Bonsoir.
Avec tout le respect qu'on a pour vous, bien évidemment, est-ce qu'on peut vous mettre dans la catégorie des fous?
Alors, c'est quelque chose qu'on me dit assez souvent, hein, j'ai l'habitude.
Malgré tout,
c'est gentil, j'ai vu le respect, mais... Mais malgré tout, moi j'ai tendance à dire je suis plutôt passionné. C'est mieux que fou. Je trouve que c'est mieux, c'est une meilleure consonance. Voilà, donc je suis passionné de sport d'ultra, enfin surtout de course à pied longue distance, on va dire même très longue distance, tout à l'heure je me suis un peu enflammé en disant 900 parce que j'étais un peu dans la prochaine course. Et elle a fait 700 km et vraiment, ce sont des courses qui sont très très longues. Voilà.
Et on remercie Damien Mazillier et son papa Claude Mazillier qui nous ont mis en lien pour l'émission. Vous avez gagné en février la Yukon Arctic Ultra, ça c'est de l'anglais aussi messieurs, en 217 heures pour 430 miles. C'est la course la plus difficile au monde, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est incroyable quoi.
Bon, ça va.
Ouais, ça va. En fait, elle fait partie, effectivement, des courses, je vais pas dire les plus dures, moi j'aime pas dire ça, mais je dis plutôt les plus compliquées. Voilà, où il faut se préparer énormément, où effectivement il y a des challenges et surtout des précautions à prendre pour cette course. Moi, ça faisait un an et demi que je me préparais pour cette course, et même il y a 10 ans que je la regarde. Donc, c'est une course très très difficile. Il y en a d'autres, j'en ai fait pas mal depuis quelques temps. Celle-ci, elle fait partie effectivement des courses très difficiles.
Et comment on s'entraîne ? Un coureur de marathon fait des marathons, un coureur de 100 mètres fait des 100 mètres, mais vous comment vous entraînez pour faire des courses entre 300 et 700 km, voire même plus ?
Déjà, vous ne dormez jamais, a priori, hein, c'est ça.
je dors peu dans ces courses.
Ah, oui, c'est ça.
Dans la vie normale, je dors quand même. Mais là, c'est vrai que sur ces courses, je pense que je suis physiologiquement bien préparé et puis je dors peu, effectivement, mais... Comment se préparer ? Eh bien, on n'y va pas comme ça hein, sur des courses-là. Et, j'ai commencé par le marathon il y a quelques années, un marathon, deux marathons, 10 marathons. Et puis les distances me semblaient un peu courtes, donc je me suis inscrit sur d'autres courses qui étaient un peu plus longues. Le marathon des sables en 2005, où là, ça a été un peu une révélation. J'ai goûté au désert et je suis devenu passionné de désert. J'ai fait un peu tous les déserts du monde et puis j'en ai pas eu assez, quoi. J'ai voulu découvrir les montagnes, ouais. Et puis voilà, et donc les montagnes, et maintenant c'est le froid. Je déteste le froid, malgré tout j'y suis allé pour sortir de ma zone de confort.
Maxime Brossard.
Par rapport au désert, j'avais une question technique, au niveau du ravitaillement, comment ça se passe ? Parce qu'il n'y a pas un stand avec un type qui attend en plein désert pour vous donner de l'eau, comment vous faites ?
Alors s'il y était, je ne l'ai pas vu, mais effectivement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors il y a divers types de courses, il y a des courses à étapes dans le désert, comme le marathon des sables qui commence cette semaine d'ailleurs, et puis il y a des courses non-stop, on appelle, et là c'est plutôt ça ma particularité, c'est ces courses là que j'apprécie parce que je gère mon temps et je m'organise comme je le souhaite.
Et là c'est vous qui portez vos vivres en fait.
Voilà, je porte mes repas, je porte mes affaires, je porte donc aussi l'eau, parce que ça c'est quand même le plus important dans le désert. Et on a des points de rencontre, en général c'est entre 25 et 30 km parce que sinon ça représente des distances trop longues. Et donc pour pouvoir effectivement nous ravitailler, et c'est là qu'on a des points de contrôle.
Est-ce qu'on peut se permettre de vous demander votre âge ?
Je ferai 50 ans dans un mois.
Très bien.
Oh, c'est beau.
Non, c'est parfait.
Oui, il y a toujours espoir.
Oui. Donc Lucas, à 30 ans, vous faisiez 10 000 km en fait en course.
Non, justement, paradoxalement, je faisais moins de kilomètres que maintenant. Bon, mais c'est ce genre de course, il faut avoir un peu
Plus sérieusement, avec l'âge, ça devient, je ne sais pas, plus compliqué ou au contraire, pour vous, plus facile ?
Ben moi, comme j'ai démarré vers 30 ans, effectivement...
Mais en fait, ça va, je suis dans les clous, moi.
Ben voilà.
Lucas, ça veut dire que vous, à 50 ans, vous allez réussir un 100 mètres.
C'est ça. S'il vous plaît, j'ai envie de dire, c'est vraiment pas gentil.
Alors, on se prépare, on s'entraîne, on fait des marathons, bien plus.
Voilà, donc, comme je disais, j'ai fait plusieurs distances, mais on y va progressivement, j'ai tendance à dire, parce qu'on ne va pas sur un 700 km comme ça, on fait d'autres courses intermédiaires qui nous permettent d'acquérir de l'expérience, et se préparer justement à tout ce qui peut nous arriver. Alors là, celle-ci, elle était particulière, donc je me suis préparé pendant un an et demi. Je suis allé à Laponie l'année dernière pour faire une course de 150 km, parce que d'abord, c'était plus près, et puis en même temps, j'ai pu tester le matériel que j'ai dû utiliser pour éviter de faire des erreurs cette année, et ça a été bénéfique, quoi. Voilà, donc on se prépare comme ça, puis ensuite, on fait une préparation spécifique. Cette année, j'ai fait pas mal de renforcement musculaire, parce que je savais que tracter une luge de 25 kilos, c'était pas évident. Mmh. Et donc, j'ai... Oui, parce qu'il y a la luge aussi à tirer. On fait pas que 700 km. Voilà.
Il faut ramasser le casseur de
l'isard. J'ai envie de pleurer les larmes.
Je voulais savoir aussi rapidement, dans les paramètres à prendre, vu que vous êtes dans le Yukon, c'est une région très sauvage. Est-ce que vous êtes arrivé, par exemple, de croiser des bêtes sauvages, des ours, des...
Alors non, j'ai juste vu un castor un peu gros, mais c'est tout ce que j'ai eu. Non, j'ai pas eu trop peur. Mais effectivement, j'ai vu pas mal de pas de loups. Ouais. Des loups, alors c'était des petites meutes, puisqu'ils étaient à trois les plus grosses meutes que j'ai vues, mais effectivement, on sait que les ours, ils hivernent, et bon, je vais vérifier, c'est le cas, tant mieux d'ailleurs, et puis des loups, il y en avait pas mal, mais bon, les animaux viennent pas à notre rencontre.
Ok.
Il y a une préparation physique, est-ce qu'il y a une préparation mentale ? J'imagine que l'alimentation doit être là aussi.
Oui.
Est-ce que vous travaillez avec l'armée ? Est-ce que vous avez des liens avec les militaires, l'armée ?
Je ne travaille pas avec l'armée. Il y a une préparation mentale, effectivement, mais cette préparation, j'essaye de la faire seul. C'est moi qui me prépare mentalement à tout ce que je peux avoir. J'ai fait un peu de sophrologie il y a quelques années. Ça a été très bénéfique, d'ailleurs. Et puis, bon, pour diverses raisons, maintenant, je pense que j'ai acquéri pas mal d'expériences qui me permettent de franchir des caps et surtout me préparer, savoir comment me préparer avant et surtout être dans le moment, savoir effectivement... ce qu'il faut faire et pas faire, et voilà, mentalement, effectivement, c'est une des courses très importantes où ça peut jouer en quelques minutes.
Et sans mauvais jeu de mots, est-ce qu'à froid, vous vous rendez compte sincèrement de ce que vous faites au quotidien, entre guillemets, des courses, des exploits que vous faites?
Alors pour celle-ci, je suis obligé de me rendre compte parce que ça fait un mois où j'ai pas mal de sollicitations après cette course, elle fait du bruit et puis pas mal de gens me remémorent ces moments-là. Mais sinon, en général... Bien sûr qu'on se rend compte, puisqu'on y va progressivement, comme je le disais. Et puis, ce sont des courses qui prennent pas mal. Et la famille, justement, doit participer. Doit
vous êtes en lien avec la famille, les amis, pendant les courses?
Alors, justement, sur celle-ci, oui. J'ai pu avoir ma femme pendant 3-4 fois, qui pouvait faire la liaison avec deux écoles avec qui j'étais en relation pour cette préparation, et qui ont suivi tout le long de la course. Donc c'était très intéressant parce qu'elle pouvait communiquer un peu mon état de fatigue ou pas, mon avancement, et tout ce que je pouvais envoyer comme message pour eux. Donc ça, c'était très intéressant. Et en même temps, voilà, sur les réseaux, ça a permis de me suivre, puisqu'on avait une balise spot pour voir notre position, mais après, on n'avait pas d'éléments sur mon état de santé.
Mehdi Guillonneau.
Juste pour revenir au sommeil, vous avez dit très peu, ça représente combien une sommeil en gros sur la course?
Sur une journée, on veut dire que entre 15 et 20 heures d'effort, 1h30 à 2h de sommeil, et tout le reste du temps, vous me direz à quoi ça sert? Ben, ça sert à manger, à organiser sa course, sa luge, pardon, et parce que la luge, on doit savoir directement où est le matériel. Parce que sinon, s'il y a un problème, il faut qu'on soit capable, de jour comme de nuit, de pouvoir attraper notre matériel de sécurité, ou pour attraper des affaires parce qu'il fait trop froid. Il a fait jusqu'à moins 40 pour le plus froid.
Ça va?
C'était pas mal, ouais. C'était pas mal. Et du coup, il faut être prêt à tout ça. Et effectivement, l'organisation dans la luge était très importante.
Vous êtes tout seul durant la course ou vous êtes suivi par un médecin, par un caméraman éventuel
Alors, suite à un accident assez grave l'année dernière, ils ont mis deux médecins sur chaque poste de contrôle, qui vérifiait nos pieds. Il nous faisait déchausser, enlever les chaussettes, et tous les deux pieds étaient vérifiés, toutes les extrémités, d'ailleurs les gants, les doigts étaient vérifiés, les oreilles, toutes les extrémités pour éviter les engelures et pour pas qu'il y ait de signes d'engelure. Alors, au moins de signes d'engelure, on était sortis de la course, et il y a eu pas mal de gens d'ailleurs qui sont sortis parce qu'ils avaient de mauvaises ampoules.
Ouais. Maxime Brossard.
Moi, je voulais revenir sur la préparation mentale, et notamment quand on a discuté un peu avant l'émission, où on parlait de Mike Horn. Est-ce que finalement, Mike Horn, qui est un peu le plus grand aventurier sur Terre, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a inspiré dans ce que vous faites aujourd'hui?
Ben, totalement, d'ailleurs, ça tombe bien parce que je l'ai rencontré hier lors d'une intervention sur Paris. On a pu échanger quelques mots et je lui disais à quel point il m'avait inspiré sur pas mal de courses. Et d'ailleurs, même au Yukon, je lui disais hier soir que dans des moments un peu difficiles, j'ai pensé à lui. Je suis un fan, parce que oui, le seul aventurier pour moi, c'est lui. Qui a fait des choses incroyables et j'ai eu la chance de participer à son intervention hier.
Et justement, dans les moments difficiles, est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on regrette justement d'être là, de dire je suis mieux à la maison au chaud ou...
Ça peut arriver dans des courses, d'avoir pas des regrets, mais de se dire qu'est-ce que je fais là, j'en ai marre de souffrir. Mais quand on est prêt, vraiment prêt, quand on a fait le nécessaire avant, il n'y a pas de souci. Moi, je me pose jamais ces questions, et sur celle-ci, encore moins.
Lucas Sardic.
Jusqu'où vous êtes prêt à aller pour cette passion et par rapport à votre santé? Parce que voilà, il y a quand même des risques. Vous le dites, il y a des courses où vous dormez une heure et demie par nuit. C'est quand même, il me semble pas hyper raisonnable pour pas mal de points. Jusqu'où vous êtes prêt à aller? Qu'est-ce qui vous ferait, entre guillemets, ralentir la cadence?
Déjà, moi, je fais ce genre de course, mais je me prépare énormément.
Oui, bien
sûr.
Je
me prépare énormément. Donc, du moment que je fais ce qu'il faut, avec l'expérience que j'ai, pour moi, ce n'est pas du irraisonnable.
Les risques sont raisonnés pour vous.
Voilà, tout à fait. J'ai fait une préparation. J'avais promis, notamment sur cette course-là, mais à mes enfants, que je ne prendrais aucun risque. Qu'au moindre problème, je déclencherais la balise s'il y avait besoin. Qu'au moindre problème, je me mettrais dans mon duvet qui pouvait tenir jusqu'à moins 45. Je ne voulais pas prendre de risque. D'abord parce que je savais que ça les troublait. Mais en même temps, je suis là pour me. C'est une passion, mais c'est pas de la démence, quoi. Donc, jusqu'à où j'irai, c'est. Pour moi, je ne vais pas au-delà de mes limites. Pour moi, les limites, je les franchis à chaque fois. J'ai d'autres expériences qui me permettent.
Repousser, oui.
Je les repousse un peu. Et on ne connaît pas les limites de l'être humain.
Non, c'est vrai.
Vous travaillez à côté. Vous avez une activité professionnelle. Comment vous faites les deux?
Oui, je m'occupe d'une agence.
Vous partez sur vos vacances ou...
Alors, ça dépend des fois. Mais en général, je m'occupe effectivement d'une entreprise de 42 personnes. Et du coup, ben oui, ça prend du temps aussi. Mais je me suis organisé depuis des années pour que justement puisse mettre à des postes spécifiques des gens qui puissent faire les choses quand je suis pas là. Et j'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire qui me supplie à chaque fois que je pars. Mais voilà, on essaye d'organiser ça bien avant et puis ça se passe bien.
Et ça vous aide au quotidien de faire ce genre de course sur la venue d'un nouveau travail, d'une journée difficile de...
Bien sûr. Et puis j'essaye de communiquer justement ça à mes collaborateurs ou d'autres entreprises avec qui je côtoie régulièrement. J'essaie de leur expliquer qu'il faut qu'ils aient absolument un exutoire. Parce qu'être toujours dans le travail et être stressé par le monde qui nous entoure, c'est pas forcément là qu'on est le plus efficace. Et moi, cette course, la course à pied en général, ça me permet de m'évader et d'être plus fort après. Parce que quand je reviens, ben, je suis remonté à bloc. Et puis j'ai pu m'évader, j'ai pu voir des choses magnifiques.
Lucas Cerdic.
C'est quoi votre prochain objectif du coup? Vous l'avez déjà en tête? Vous préparez déjà?
J'ai deux grosses courses à venir. La prochaine, d'ailleurs, pour mes 50 ans.
Asseyez-vous, Lucas.
Non, mais je crois que je vais me coucher même.
Voilà. Vous êtes invité, Lucas, d'ailleurs.
Pour mes 50 ans, d'ailleurs, je voulais faire ces deux courses. La prochaine, elle sera au mois de novembre en Mauritanie. Ça sera la plus longue course qui s'est jamais passée dans le désert. Elle fera 1000 km. 1000 km non-stop. Et il y aura seulement 20 coureurs qui sont présélectionnés. Une seule édition. Donc, j'ai hâte d'y être.
Et vous êtes sûr d'être sélectionné?
Oui, je suis pris, j'ai l'organisateur.
Ah, je viens de m'évanouir là. Voilà.
C'est beau, ça. Et il y a une autre course après?
Oui, alors 6 mois après celle-ci.
C'est que 1000 km.
Voilà, dans un an maintenant, il y a une course qui se fait tous les 4 ans qui s'appelle l'Himal Race. Et du coup, cette course, elle part du camp de base de l'Everest à 5600 mètres. Et là, on est parti, ne tombez pas, elle est partie pour.
Il faut vraiment regarder, excusez-moi de vous couper. Dommage qu'on
fasse pas vidéo.
Pas de la télé. Mais la tête de Lucas Cerdic est tout simplement incroyable.
Non, mais oui.
Cette course, elle fera 900 km. Mm-hmm. 900 km en 24 mm-hmm. étapes sur la chaîne népalaise, sur un GR. Du coup, ça, c'est un moment magique parce que, bon, voir les plus hauts sommets du monde.
Combien de dénivelés?
J'ai pas vu exactement le dénivelé, je pense que c'est à peu près 30-35 000.
Oh,
voilà.
Oh ouais, quand même.
Mais j'avais fait une course cet été là, qui a fait 880 km avec 60 000 positifs, donc bon, ça me fait penser.
C'était où là? Moi, franchement, c'était... je trouve vraiment ça pas terrible.
Et en 15 secondes, 20 secondes, on a le temps, quand on est dans des endroits comme ça, le désert, l'Himalaya et tout, de regarder un peu le paysage. On est tellement.
Moi, j'y vais surtout pour ça, parce que j'adore les grands espaces, donc c'était fantastique.
En fait, vous êtes Forrest Gump.
Un peu, on peut dire ça.
Thierry Corbarieux, merci beaucoup.
Merci à vous.
Bon courage, c'est le minimum, je pense, à vous souhaiter pour la suite. Vous pouvez revenir nous voir sans problème ici sur Radio Présence. Merci à vous, messieurs. Merci à Grégoire et Coraline à la réalisation. Retrouvez à demain dès 7h Rémi Souloumiac, Isabelle Oenley et Corinne Saint-Félix. À 9h, Vivante Église avec Emmanuel Pella. Bonne semaine sur Radio Présence.
Vivez le temps du carême sur le chemin de la sainteté grâce aux écrits du pape François aux éditions Magnificat. Le carême, un temps fort sur votre radio chrétienne.
Du lundi au dimanche à 7h10. Au dimanche à 7h10.